Et puis, on parle maintenant de la pièce Ron de lait qui traite de la détresse psychologique chez les producteurs laitiers, notamment. C'est Justin Laramé qui a écrit la pièce, qui a mis en scène en collaboration cette pièce et qui joue également. Alors, beaucoup de responsabilités, beaucoup de rôles pour Justin Laramé qui est au bout du fil. Bonjour, Justin.
Bonjour.
Alors, Justin Laramé, Ron Delay, je pense que c'est une pièce qui est très importante dans votre parcours d'artiste, dans votre parcours d'humain, point à la ligne. Quelle a été la genèse de ce projet?
En fait, en 2016, le OFTEA, qui est un festival en fait en marge du festival Transamérique, ont une tradition de faire ce qu'on appelle les mix-off. Donc, ils vont sélectionner un artiste et quelqu'un, parfois, qui va venir de l'extérieur, et ils vont leur demander ensemble de trouver une solution artistique à un problème. Donc, dans mon cas, on m'a jumelé avec Ginette Lafleur, qui est une spécialiste de la détresse psychologique en milieu agricole et qui travaille à la maison ACFA, au cœur des familles agricoles à Saint-Hyacinthe. Et elle faisait son doctorat sur le suicide anormalement élevé chez les agriculteurs, plus particulièrement chez les producteurs laitiers. Donc, moi, je devais trouver une solution artistique à son problème scientifique, donc proposer comment l'art peut influencer, changer, venir nourrir des grandes réflexions scientifiques. À ce moment-là, donc, on a fait une installation ensemble qui s'appelait Avant de partir, je voulais te dire, qui est une installation sonore où on rentrait dans les fermes. On le fait aussi là, aux portes ouvertes sur les fermes de l'UPA au Stade olympique. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une installation qui nous permettait de croire. Moi, je faisais la photographie aussi. Là, je suis un peu, comment dire, un homme orchestre. Oui. Donc, je faisais des portraits d'agriculteurs et il y avait cette installation sonore où on s'assoyait devant un portrait d'agriculteur et on entendait une voix qui disait, bon, avant de partir, je veux te dire. Les lettres étaient absolument bouleversante parce que c'était souvent les lettres de suicide que dont Ginette avait accès pour ses études. Évidemment, elles étaient caviardées là pour pas reconnaître la personne, le lieu, le temps, la famille. Mais l'essence de ces lettres-là tournait autour d'un peu une to-do list. C'est comme si le producteur laitier à ce moment-là disait « Regarde, moi, j'en peux plus, mais jeudi prochain, oubliez pas qu'il y a les assurances à payer, puis là, il y a l'ensilage qu'il faut absolument changer de côté, puis fait que c'était vraiment ces listes-là, puis on s'est inspiré de ça pour faire l'installation où on avait une lettre qui était lue par un acteur qui joue un producteur laitier, puis il lui disait, oubliez pas ça jeudi, tout ça, mais on comprenait qu'au lieu, évidemment, de passer au suicide, il partait pour la première fois en vacances, puis c'était une forme de stimulation, de rappel, sensibilisation pour les gens qui viennent pas de ce milieu-là, puis un rappel pour ceux qui sont dans ce milieu-là, qu'il y a toujours les vacances. Il y a toujours un moyen de travailler pour avoir du répit, même si c'est complexe, même si c'est difficile, même si parfois les producteurs laitiers qui sont parfois à 365 jours par année à leur ferme, ils ne veulent pas partir parce qu'ils sont inquiets, parce que ci, parce que ça, mais finalement, il y a des solutions autres que celles du suicide, de toute évidence.
Oui, et le suicide n'est pas une solution de toute façon.
Exactement.
Justin Laramé, quel était votre rapport aux agriculteurs, aux producteurs laitiers avant de vous lancer dans ce projet Ron de lait?
Il était absolument nul. Je ne connaissais rien de ça. J'avais déjà, des antécédents de curieux Justin, je peux le dire comme ça. Une proximité avec la chasse, la pêche, la cueillette en forêt, les champignons. Toujours été très, très intéressé par l'agroalimentaire, l'occupation du territoire, le terroir aussi. De l'autre côté aussi, j'avais une première formation en journalisme. J'existais beaucoup entre le théâtre et le journalisme. J'ai choisi le théâtre. Donc, il n'y avait rien de concret qui me prédisposait à suivre cette route-là. Et c'est ce qui rend, je crois, le spectacle le plus intéressant possible, parce que comme me l'ont dit au fil des années, différents intervenants importants, majeurs, que ce soit de Marcel Groslot, ancien président de l'IPA, à Martin Caron, président actuel, ou des gens qui s'occupent de la transformation laitière, qui s'occupent de journal agricole comme Yannick Patelli ou de l'Institut Jean Garon comme Simon Bégin, ça prenait quelqu'un de l'extérieur. Ce sont des milieux très complexes, très fermés, où il y a des gens qui disent la même chose depuis 15 ou 20 ans, mais on dirait que ça sort pas de la sphère de l'agriculture. Et comme la culture maintenant se penche avec un regard neuf, mes questions qui pouvaient sembler banales au départ, des questions de simples consommateurs, des questions de simples citoyens, ben soudainement, on me répondait différemment. Et ça a été très, très long, en fait, à prime abord avant, évidemment, parce que l'agriculture comme la culture sont des milieux assez fermés. On a la difficulté à pénétrer ces milieux-là si on vient de l'extérieur.
Ah oui, ça a été difficile?
Ah oui, très difficile, surtout pour surtout d'emblée, c'est sûr qu'avec la détresse psychologique qui est le point de départ, là, qui est vraiment, le spectacle ne porte pas sur la détresse psychologique, mais bien parce que la réponse, en fait, la première question, c'est « mais pourquoi il y a autant de détresse ?» psychologique, puis de suicide élevé chez les producteurs laitiers. Les chiffres, je vais être bien précis ici, là, les chiffres existent surtout aux États-Unis. Les chiffres que Ginette, elle amène, elle est en travail là-dessus, ce sont plus difficiles à avoir au Québec, mais aux États-Unis, ils existent, puis c'était des chiffres absolument effarants. Là. Il y avait quelque chose comme 5 fois plus de producteurs laitiers qui se suicidaient que d'anciens combattants de la guerre en Afghanistan. Oui, oui. Donc, c'était énorme.
Mais au Québec aussi, c'est clair qu'il y a de la détresse psychologique.
Exactement, parce qu'évidemment, on pourra en parler un peu plus tard. Donc, je me suis vraiment posé cette question-là et la réponse est arrivée assez rapidement dans la mesure où il y a de la détresse parce qu'on perd la moitié des fermes laitières au Québec depuis 20 ans. Donc, c'est sûr que quand on perd la ferme, c'est parce qu'on est endetté, c'est parce qu'on est à bout, c'est parce qu'on s'est chicané avec sa famille, parce que ce sont des fermes familiales. Donc, la différence entre le travail et la famille n'existe pas. Si tu chicanes avec ta sœur, ben après ça, faire la traite le soir, ça va être difficile. Tout est intimement lié. Et là, on ne parle même pas de la transmission, qui est, selon moi, une des choses les plus importantes. C'est que la première productrice laitière que j'interview, elle est dans une ferme laitière qui est transmise de père en fils depuis 16 générations. Donc là, on est dans être la personne, homme-femme, qui réussit pas à poursuivre la démarche de ses ancêtres, c'est un poids absolument énorme. Donc, ça, les gens doivent comprendre que c'est pas juste parce qu'on a assez, j'en veux plus des animaux, les dettes, c'est pas juste ça, c'est qu'il y a toute une pression familiale. Ce sont des fermes laitières familiales. Donc, à ce moment-là, être celui qui arrive pas au bout de l'affaire, c'est un échec énorme, en fait.
Alors, j'imagine que depuis que vous vous êtes lancé dans ce projet-là, vous buvez votre lait d'une autre façon.
Oui, je vous dirais surtout que je mange mon fromage d'une autre façon, parce que c'est ce qu'on découvre dans la pièce, en fait, qui est absolument troublant, c'est que la consommation de lait, le lait de consommation, donc le lait que l'on boit, est en chute libre depuis plusieurs années au Québec. Et je vous dirais, à part en Asie, là où la Chine devient le grand consommateur de lait, nous, on en boit de moins en moins de lait. Là. Même comme adulte, on en boit presque plus en plus, je sais pas vous, mais moi, du lait, c'est très, très rare et je vais prendre un verre de lait.
Est-ce que c'est en lien avec une campagne anti-lait qui a existé, qui existe aussi à l'occasion, qu'on entend à travers les branches ou certaines tribunes?
Et c'est sûr qu'il y a un lien avec ça, mais je pense que fondamentalement, les adultes, en tout cas les adultes autour de moi, tout le monde boit moins de lait, que ce soit par habitude, par goût, par entre guillemets, conscience sociale. Le problème, c'est que ça prend 10 kilos de lait pour faire 1 kilo de fromage. Et je connais personne autour de moi, ou très, très peu de personnes autour de moi, qui ne mangent plus de fromage. Même mes amis végétariens mangent la majorité du fromage, et ils ne deviennent pas vegan justement parce qu'ils sont pas capables de se séparer du fromage. Or, ce qu'on apprend dans la pièce, qui est vraiment intéressant, c'est que le fromage est l'une des protéines les plus problématiques au niveau environnemental, parce que ça prend 10 kilos de lait pour faire 1 kilo de fromage. Et après ça, on a beau arrêter de manger de la viande, mais si on arrête de manger le rôti de palette ou la petite bavette du coin au bistrot ou le burger, ben c'est que là, on arrête de manger la vache. Or, si on mange juste le sous-produit de la vache devient un déchet. Donc, à ce moment-là, c'est problématique. La réelle question, la question la plus difficile pour le consommateur, la question la plus difficile à aborder pour tous, c'est sommes-nous prêts, oui ou non, à abandonner la consommation de fromage que je vais appeler industriel. Donc, ce fameux Suisse, ce fameux cheddar fort, ce sont ces fromages-là qui génèrent énormément de méthane et qui sont au cœur du problème, entre guillemets, de ce que moi je raconte dans la pièce, qui est l'enquête principale, qui est l'importation massive de lait diacritré au Québec pendant 20 ans des États-Unis.
Est-ce qu'il y a des producteurs laitiers qui vont voir votre pièce et si oui, quelles sont leurs réactions?
Ça, c'est quelque chose d'assez touchant. Là, vous savez, je l'ai joué à Québec, au Trident, en mars. Et là, ce soir, c'est la première à Montréal. Donc, oui, il y a vraiment des producteurs laitiers, je vous dirais, à la majorité des représentations. Évidemment, à Québec, c'était les gens du Saguenay, c'était les gens de Saint-Michel-de-Bellechasse, ces producteurs-là. Ici, à Montréal... Drummondville est un peu loin, mais il y a des gens de la Montérégie, tout ça, qui vont venir. Il y a même une représentation presque exclusivement de producteurs laitiers qui est donnée le 5 décembre. Donc, oui, ils sont vraiment présents. J'aborde des choses difficiles pour eux là-dedans. Premièrement, il n'y en a pas beaucoup là-dedans qui ne connaissent pas des gens qui des fermes où il y a eu des suicides. Déjà hier, à la Générale, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, tu sais, il y a quelqu'un qui s'est suicidé il y a 3 ans dans ma famille, puis bon, productrice laitière, etc. Donc, oui, ils viennent. Les producteurs laitiers, je vous dirais qu'ils sont contents, premièrement, qu'on parle d'eux avec respect, parce que je ne suis que respectueux à leur égard. Après ça, ils sont contents que je raconte que, ben, sous gestion de l'offre, c'est un système présentement qui fonctionne, mais qui fonctionne si on le respecte, comme tout bon système. Donc là, présentement, le système de gestion de l'offre, il a été trahi de plein de façons par les transformateurs. Le gouvernement a laissé ça aller pour des enjeux de libre-échange avec les États-Unis. Donc, on est en droit de se poser la question collectivement. Gestion de l'offre, c'est une entente entre 3 parties, les producteurs, les transformateurs et le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est nous, ça. Donc, collectivement, on a une question à se poser avec notre plus importante production agricole. Est-ce que ce système-là, un peu social-démocrate, qui ressemble au modèle québécois, hein, celui de système de santé publique, celui d'éducation publique, tous les modèles coopératifs, de Desjardins, d'Agropur, est-ce que ces modèles-là sont toujours ceux qu'on veut? Et si, comme société, on répond oui, ben, il faut les encourager, il faut les nourrir, il faut les soutenir, parce qu'ils nous concernent tous.
On vous sent totalement investi par tout ce qui sous-tend ce projet, Rondelet. Comment ça se déploie sur la scène?
En fait, l'idée est née comme la première, c'était la première, en fait, prémisse du projet est une installation sonore. On a continué dans cette veine-là avec des boîtes de son, en fait, sur scène. C'est carrément des boîtes de son sur trépied qui rappellent un peu des figures humaines. Et moi, pendant 2 heures, je me promène là-dedans avec toutes les archives sonores, les entrevues, etc. Donc, des fois, je vais interviewer, je vais interviewer une caisse de son qui va me répondre. Et là, la caisse de son va répondre. Et là, moi, je vais jouer quelqu'un d'autre dans cette pièce-là qui n'est pas tout à fait d'accord, qui va lui répondre. Ensuite, une autre caisse. Donc, je me promène vraiment d'une intervention à l'autre pour construire tout le narratif autour de ça. Donc, c'est vraiment un dispositif sonore. C'est aussi, je le dis parce que ça peut sembler un peu étrange, mais c'est aussi une comédie. C'est la comédie, évidemment, on ne rit pas là, de la détresse psychologique, puis le suicide en milieu agricole, au contraire. Mais à partir de ce moment-là, le narrateur Justin, le personnage Justin, ne sait pas quoi faire dans cette enquête-là qu'il trouve si complexe avec les accords internationaux, les traités de libre-échange, ce que les producteurs disent, ce que le gouvernement dit, ce que le transformateur dit, et ça le ramène à lui. Et ça ramène à sa propre détresse de consommateur avec ses 2 jeunes enfants. On entend mes enfants vieillir de 5 ans vocalement sur la scène avec moi, parce que quand j'ai commencé ce projet-là, je voulais aussi impliquer les gens autour de moi. Toi, t'emboîtes-tu du lait? Puis là, je me suis mis à tout enregistrer ces conversations-là, qu'on a toutes mis dans des grandes archives. Et là, tranquillement, à mesure qu'on écrivait le spectacle, on est revenu à ça en se disant « Ah, c'est super intéressant! » Parce qu'on entend ma fille de 2 ans pleurer au début du spectacle en demandant du lait. Puis j'explique qu'elle est en transition entre le lait maternel et le lait de vache. Et à ce moment-là de ma vie, quand elle a 2 ans et elle demande du lait, j'ai aucune idée qu'une vache doit accoucher d'un veau pour donner du lait. Mais à chaque année, c'est pas qu'elle accouche d'un veau, puis après ça, elle donne du lait pendant 5 ans. Il faut qu'à chaque année, elle accouche pour redonner du lait. Donc, c'est des notions simples qui nous permettent de traverser dans le temps puis d'expliquer à quel point le narrateur, Justin Laramé, ne se connaissait rien au début et maintenant, ben, il peut en parler pendant 2 heures sur scène. Et autant des traités internationaux que de la génétique de la vache, que des sortes de vaches, que pourtant on ne mange pas ça, puis des conséquences agroalimentaires de comment l'industrie s'est construite aujourd'hui, en fait.
Vous parliez tantôt des portes ouvertes sur les fermes. Est-ce que vous pensez que l'éducation concernant justement le monde des fermes est importante?
C'est une excellente question. En fait, comme vous le sentez, là, je suis bien passionné et pris par le sujet. Ceci dit, j'ai envie de continuer, je continue toujours. Non, je pense qu'évidemment, c'est une posture importante dans le spectacle, le rat des villes et le rat des champs. Moi, en tant qu'urbain, même si j'ai des contacts, là, Benoît Côté qui m'accompagne sur scène, qui fait la musique, prend sans voler de punch une part de plus en plus importante dans le spectacle parce que lui, il est fils d'agriculteur et il est le futur héritier d'une ferme de 400 hectares à Saint-Hyacinthe.
Oh, oui.
Donc, lui, sur scène, au départ, on le sait pas, mais il commence à jouer et il fait « Oui, oui, mais moi, je suis membre du PA, là, puis ce que tu dis là, ça fait pas de sens. » Donc, moi, toute ma posture de chasseur-cueilleur urbain qui va en forêt pour aller chercher des cèpes, lui, il fait « Oui, mais c'est pas ça, se nourrir. Ça, c'est pas se nourrir, Justin. Ça, c'est triper puis faire des photos de champignons sur Instagram. » Donc, lui, il me ramène toujours à l'ordre. Et cette dualité-là est super intéressante. Après ça, il y a des choses il y a vraiment une séparation entre ce que les gens pensent qu'est l'agriculture et ce qu'est l'agriculture, surtout en ville, par rapport aux régions. Si on décide d'acheter ça, voici les conséquences. Si on décide d'encourager telle chose, voici les conséquences. Donc non, j'ai vraiment l'impression que les gens sont pas en lien. Juste un exemple simple, la ferme chez Benoît est à Saint-Hyacinthe, c'est Montérégie, c'est un des cœurs de la production laitière au Canada. Pourtant, c'est impossible, même si on est entouré de 150 fermes laitières, d'aller chercher une pinte de lait qui vient d'une ferme. C'est complètement absurde. La distance entre le consommateur et la production, elle est beaucoup, beaucoup trop grande. Et je le sais que les gouvernements travaillent là-dessus, principalement M. Lamontagne, présentement, essaient de ramener ça en lien avec le rapport Pronovo, mais ça ne va pas assez vite. Ça n'a aucun sens qu'on ne puisse pas, en tant que consommateur, avoir accès directement à la ferme. Si on avait accès à la ferme, on comprendrait mieux les réalités des producteurs laitiers, des producteurs maraîchers, ainsi de suite, et on serait à ce moment-là en contact. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ce lien-là qui est important à rétablir.
Croyez-vous que le théâtre peut faire évoluer les êtres humains?
Oui, absolument, certainement. Le problème, parfois, avec le théâtre, c'est qu'il prêche aux convertis. Donc, à ce moment-là, on va se retrouver dans un théâtre à Montréal, dans un théâtre à Québec, et on va finir par... Il y a des gens qui ont des habitudes, qui sont abonnés, qui sont déjà de centre-gauche, qui sont déjà informés, même s'ils apprennent beaucoup de choses, puis ils vivent des choses dans ce spectacle-là. Là, nous, on a une grande tournée québécoise qui commence à Longueuil, Granby, et là, on s'en va partout au Québec. Puis, je dirais aux gens qui vous écoutent, si vous voulez que ce spectacle-là soit dans... On a déjà une trentaine de dates qui vont être annoncées très bientôt, mais si ça on passe pas par chez vous, appelez votre diffuseur de région, la salle, laissez un message en disant « Nous, on veut le voir, c'est important que ce spectacle-là vienne dans notre région pour parler de cette réalité-là. » Donc, il faut absolument que ce spectacle-là, premièrement, parle aux gens de la ville en disant « Voici la réalité de l'agriculture », mais deuxièmement, est en région pour dire « Voici aussi comment nous, on vous perçoit, voici les problèmes auxquels nous faisons face collectivement, vous en tant que producteur agricole, nous en tant que consommateur de vos produits. » Et ensemble, j'ai l'impression, plus l'un connaît la réalité de l'autre, plus l'un va bénéficier aussi de la compréhension de la réalité de l'autre, et ainsi de suite. On est dans une étape hyper importante pour l'autonomie alimentaire, les réchauffements climatiques, l'occupation de notre territoire. C'est maintenant que ces enjeux-là doivent être confrontés de face. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos modèles sociodémocrates qu'on a construits. Est-ce que c'est encore les bons? Et si oui, il faut les nourrir, il faut les encourager.
Alors, c'est une pièce qui doit vous prendre énormément d'énergie. Faites attention, là, parce que les gens vont vouloir la voir et vous allez peut-être vous retrouver avec un horaire d'agriculteur, le 7 jours sur 7.
C'est déjà pas loin, je vous dirais. Là, je le joue... histoire semaine sans arrêt.
Oh.
Et ensuite, on part pour 2 ans. Et c'est un bon 2 heures de scène bien où j'arrête. Je prends pas beaucoup de pauses, mais enfin, dans la carrière d'un artiste, habituellement, on est toujours obligé de faire 73 affaires pour arriver. Et là, je réussis à concentrer mes énergies quand je fais ça là-dessus. Et pour moi, c'est un privilège, enfin, de me déposer comme artiste dans quelque chose d'à la fois agréable à faire et d'utile et d'important. Donc, pour moi, c'est vraiment un privilège de pouvoir faire ça tous les soirs, évidemment.
Et vous parliez avec une fière fille de producteur laitier qui a un jour vendu son troupeau de vaches parce qu'il était presque en train de faire un burn-out. Alors, c'est une pièce qui me tient à cœur, qui m'intéresse vivement. Ron Delay s'est présenté à partir d'aujourd'hui, 22 novembre.
Exact, c'est la première ce soir.
La première ce soir, bonne première. Et on pourra se déplacer à la Licorne jusqu'au 21 décembre. On va suivre votre projet. Merci beaucoup, Justin Laramé, pour cette entrevue.
Merci. Bonne fin de journée.
Vous
au revoir.
Aussi.